Fort heureusement, la mixité n'est pas remise en question dans la plupart des pays européens et on a même des pays avant-gardistes qui vont plus loin et qui appliquent une mixité très approfondie, que je pourrais même appeler de neutralité, dès la crèche. Alors je vais prendre l'exemple de la Suède, pays très progressiste s'il en est dans le domaine, où les enfants vont à la crèche, donc de 1 à 6 ans, l'équivalent de nos crèches et de nos écoles maternelles. Et on a quelques écoles expérimentales à Stockholm, hein, pour le moment, qui en fait proposent aux enfants une éducation absolument non genrée. Donc déjà, lorsque l'enfant arrive à l'école, ce n'est pas un garçon ou une fille, c'est un individu et c'est un enfant. Afin de s'adresser à ces enfants, le corps social et éducatif utilise un pronom qui est neutre, qui a été créé dans les années 60 en Suède et qui permet de dénominer en fait un être humain sans sexe, de manière neutre. Donc ça permet vraiment de se concentrer sur l'individualité, sur le petit, et non pas sur la petite fille ou le petit garçon. Bien évidemment, dans ces crèches et dans ces écoles, on n'a pas de petits nœuds dans les cheveux roses, on n'a pas les murs peints en bleu, on n'a pas Cendrillon, Blanche-Neige et les Sept Nains et autres contes très stéréotypés et très genrés. Et on a des tas de livres qui racontent des histoires de pompiers, d'infirmiers, de jardiniers qui ne sont ni dénominés comme des hommes ou des femmes et qui permettent aux enfants de se projeter sur un travail futur et des activités sans être sclérosés par leur sexe. Ces deux écoles accueillent actuellement 150 enfants. Il y a des très longues listes d'attente des populations pour y inscrire leur marmaille. Et on sait que c'est soutenu par le ministère de la Parité. Malgré tout, ça reste quand même très polémique, tant sur la nature des crèches que sur l'emploi du pronom neutre Hen, H-E-N. Le dernier outil, qui est lui beaucoup plus polémique et qui est beaucoup plus récent, en fait, c'est la non-divulgation du sexe de l'enfant. On a deux cas assez récents qui sont très connus. Le cas de Pop, un enfant qui a 6 ans, qui est né en Suède, Suède toujours. Et le plus récent, c'est Storm, un petit enfant de 2 ans qui est né au Canada. Donc les parents ont décidé à la naissance de ne pas dévoiler le sexe de l'enfant. C'est-à-dire que les seules personnes qui connaissent son sexe biologique, ce sont les parents, les sages-femmes présentes lors de l'accouchement et le corps médical qui suit la santé de l'enfant. Donc ils ont des sortes de dérogations des gouvernements pour pouvoir garder l'intégrité du secret sur le sexe de l'enfant et élèvent leur enfant, bon, à la maison en l'occurrence, sans dévoiler le sexe. Donc l'enjeu est de savoir comment va s'orienter l'enfant, qu'il développe son individualité sans être coincé dans des stéréotypes de genre et de voir un peu son développement personnel en fonction de ses aspirations propres. Alors Storm en plus est particulier, Storm c'est le troisième enfant du couple de parents et il a déjà deux frères. Les deux frères bien évidemment avaient été élevés dans une orientation assez libre et assez féministe, donc les petits garçons pouvaient dès leur plus jeune âge s'habiller, se coiffer comme ils le souhaitaient. Le frère aîné de Storm d'ailleurs à 7 ans a des longues tresses et des petits nœuds dans les cheveux et met des jupes, des pantalons ou des robes comme il lui sied. Alors cette éducation là fait l'objet d'énormes polémique, bien évidemment, puisqu'on a tout le corps social, pédagogique et psychologique qui se rue sur les parents en parlant d'expérimentation, d'enfants cobayes, de parents irresponsables, qui pointent du doigt le fait que ces parents, sur des lubies pseudo-progressistes et féministes, veulent désaxer leur enfant, que Storm et Pop seront complètement perdus sans les codes de genre, qu'ils en feront des monstres asociaux qui ne sauront pas s'inscrire dans la société. Bon, bien évidemment, les gens ne se posent pas forcément la question, enfin certains se la posent, de savoir quel est le problème. Est-ce que c'est Pop ou Storm qui aura un problème fondamental, ou est-ce que c'est les gens autour et le regard qu'ils portent sur ces enfants, qu'ils n'arriveront pas à identifier en fonction des codes qu'on a établis aujourd'hui. Donc la plupart des personnes critiquent vivement cette expérimentation, le mot est assez fort, même s'il n'est pas complètement faux. Mais les gens ont tendance à oublier qu'on a expérimenté des choses très intenses au cours des siècles, que les premiers métis étaient considérés comme des parias, des expérimentations de race qui n'avaient pas lieu d'être, que les premiers enfants de couples mixtes, par exemple de deux religions différentes, étaient également portés aux marges de la société, on considérait qu'ils n'avaient pas de repères pour s'épanouir, que les enfants de divorcés, dans les années 90, ça, ils en avaient beaucoup sur le dos, les enfants de divorcés, bon, on se rend compte qu'ils arrivent à se structurer, et on a actuellement la même question avec les enfants issus de l'homoparentalité. Donc cette vision nouvelle qui vise à balayer les codes du genre sur lesquelles toute la société est établie est très mal acceptée par le milieu social, psychologique et médical. même si certains, au contraire, soutiennent les deux familles, de Pop et de Storm, et espèrent que ces tentatives d'éducation alternative permettront de mettre fin au mythe comme quoi les enfants ont une prédestination en fonction de leur corps et de leur sexualité. Catherine Vidal, la neurobiologiste, nous a prouvé et a confirmé qu'il n'y avait aucune différence entre le cerveau d'un homme et d'une femme, et également que les enfants avant l'âge de la puberté n'avaient aucune distinction physique ni influence hormonale. Un garçon et une fille avant la puberté, c'est physiquement, physiologiquement exactement la même chose. Et un homme et une femme, tout au long de leur vie, ont le même cerveau. Donc reste à savoir ce que donnera les vies de Pop et de Storm, en espérant que la société qui les entoure ne les rejettera pas, car c'est vrai que la nouveauté et l'alternatif fait peur.
Je déteste le sexe. Depuis mon enfance, je n'éprouve aucun désir, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Mes copains à l'école rêvaient de chattes et de nichons, et moi je restais là, t'es un vieux cornichon.
Pédale !
Éric Fassin, à nouveau bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes là rentrés dans une dernière séquence de notre nuit du genre, puisque nous sommes rentrés dans la séquence genre à venir. Aussi, on s'interrogeait, non, sur l'avenir de l'humanité, de savoir si aujourd'hui nous pourrions demain nous inventer, devenir martien, devenir luciole, devenir n'importe quoi, un peu comme disait Deleuze, c'est-à-dire finalement passer à une phase très concrète de se devenir n'importe quoi. Et nous aurions aimé avoir votre regard sur tous ces fantasmes qui s'ouvrent à nous désormais.
Écoutez, moi je ne suis pas sûr d'être capable de donner des conseils sur la possibilité de devenir luciole ou autre, mais il me semble que la question qui se pose depuis des années, c'est celle de l'invention. C'est une question qui était posée par Michel Foucault, en particulier au début des années 1980, lorsqu'il réfléchissait au fait que, au lieu de penser qu'on sait ce qu'on veut dire quand on dit homosexuel, il faudrait s'acharner, disait-il, à devenir homosexuel, c'est-à-dire il ne s'agissait pas de découvrir sa vérité authentique, mais d'essayer de produire quelque chose. Et produire quelque chose, ça se jouait en particulier autour de l'invention de manière d'être et de type de relation. Je crois que ce programme très important, en même temps, il reste toujours à définir. C'est-à-dire que ce que nous voyons, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est que la politique autour du genre, autour de la sexualité, elle se joue d'abord dans un registre qui est le registre démocratique classique, c'est-à-dire celui de la liberté et de l'égalité. Mais à partir du moment où on se dit que les normes ont perdu leur évidence, ça ouvre une possibilité, c'est de se dire, puisqu'elles ne sont pas données une fois pour toutes, nous allons pouvoir essayer de les reconstruire. Alors, il y a eu des grands projets utopiques, mais il me semble que ce qui se joue aujourd'hui est peut-être plutôt du côté des bricolages. Des bricolages qui sont en partie individuels, nous tâtonnons pour essayer de bricoler des nouvelles organisations de vie, des nouvelles formes de relations. Ça ne veut pas dire qu'il suffise d'une sorte de bonne volonté politique pour arriver à réinventer le monde tous les matins et à devenir autre et à forger des relations radicalement nouvelles. Mais ça veut dire que, au lieu de se contenter comme d'une évidence du fait que c'est ainsi, par exemple, que le couple ça fonctionne, ou bien c'est ainsi que la sexualité ça fonctionne, ou bien c'est ainsi que la famille ça fonctionne, eh bien je crois qu'aujourd'hui on est amené à y réfléchir.
Eh ben, ça nous fait beaucoup de bricolage en perspective, toutes ces informations. Merci beaucoup, Éric Fassin, de nous avoir suivis pendant toute cette nuit du genre et nous avoir encore mieux éclairé sur ce qu'est le genre à venir.
Moi, je vous remercie et puis je souhaite à tout le monde donc une très bonne nuit du genre ou un très bon genre de nuit.
Merci, Éric Fassin.
Au revoir.
Au revoir.